Bien sur certains points, je précise, parce que l'opposition entre la polymie et le dionysiaque, c'est pas juste là. Alors, y a-t-il des questions ou des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne? Maintenant, on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire aux positions. Alors, oui.
Quelles autres exécutions il y a de...
Oui.
Donc vous pouvez dire que, au fond, on le voit sous un aspect lumière, lumineux, alors qu'en fait, il a sa face aussi.
Noire, obscure. Noir. Oui, c'est ça.
Mais que c'est Dionysos qui est dans la joie par rapport à la réalité un peu cruelle, tandis qu'Apollo ne l'est pas au terme de ses exécutions.
Oui, vous avez tout à fait raison. Parce que ce que vous dites, ça me rappelle une chose que j'ai pas, que je dis maintenant. Hein. Nietzsche dit que ceux qui se prétendent dans la raison, ils ont ce que Nietzsche appelle l'esprit de pesanteur, l'esprit de gravité. Et c'est vrai, c'est Dionysos qui est dans la joie et qui est dans l'ivresse. Et Nietzsche oppose l'esprit de pesanteur à la légèreté, en fait, et à l'ivresse. Parce que il y a une forme d'ivresse dans la passion. Alors, il y a d'autres thèmes qui interviennent autour de ces deux figures, hein, qui sont très complexes. Hein. Nietzsche dit que Dionysos, le dionysiaque, c'est aussi la résorption de l'individu dans la masse. C'est la perte de l'individualité, le dionysiaque. Et imaginez quand on est un peu ivre, on a la... Enfin, dans l'ivresse, il y a comme le retour vers une unité primordiale. Ce thème revient souvent chez lui. Alors que chez l'apollinien, c'est notre dimension analytique. Vous savez ce que c'est que analyser? Ça veut dire on sépare, on découpe, on individualise les choses. Apollon et Dionysos, ce sont deux rapports différents au monde. Un rapport analytique, un rapport rationnel, explicatif, alors que le dionysiaque, c'est notre part de déraison, mais c'est aussi le lien avec l'unité. C'est l'inverse de l'individualité. Et ces deux catégories, elles jouent constamment chez Nietzsche. Donc oui, vous avez raison. En fait, Apollon, c'est une figure beaucoup plus trouble, hein, que c'est pas le... Ouais. Alors, est-ce que vous avez... par rapport au texte que je vous ai distribué, est-ce que ce texte vous a choqué?
Non.
Vous n'êtes pas choqué?
La vie, c'est essentiellement déboussé, dépouillé. C'est choquant.
Oui, moi je voudrais bien revenir sur
l'illustabilisant.
Oui, oui, justement, sur le premier paragraphe, qui est quand même très violent, sans les éléments que vous avez donnés. Oui. Mais il y a quand même la dernière phrase de ce paragraphe qui m'interpelle, parce que, mais pourquoi employer toujours ces mots auxquels, depuis bien longtemps, s'attache à un sens calomnieux, comme s'il semblait un peu revenir sur ce qu'il disait.
Alors, en fait, la dernière phrase... C'est vrai que je ne me suis pas trop attardé parce qu'elle pose problème. Il y a des allusions. D'abord, par rapport à cette notion de calomnie, hein, là il faut que je vous explique. Nietzsche a beaucoup critiqué Platon et Socrate aussi, parce qu'il considère que Socrate et Platon, ce sont déjà des penseurs qui vont amener la pensée chrétienne d'un primat de l'esprit sur le corps. Vous connaissez tous le sens de l'adjectif platonique. Par exemple, un amour platonique, c'est un amour spirituel, ou en tout cas, où le corps n'intervient pas. Eh bien, même si Platon et Socrate ne connaissaient pas le christianisme, hein, bien sûr, hein, ils ont été récupérés par la pensée chrétienne. Vous savez que c'est saint Augustin qui a essayé de faire une espèce de fusion entre Platon et le christianisme, hein, alors que saint Thomas, lui, c'est avec Aristote. Bon. Mais lui, Nietzsche, considère que d'abord, Platon et Socrate, surtout Platon, hein, ils ont calomnié les sophistes. Les sophistes, ce sont des penseurs qui, eux, étaient très proches dans leur manière de penser de Nietzsche. Seulement, ils reprochent à Platon d'avoir donné une image des sophistes qui était fausse. Alors, qui sont les sophistes? Ce sont des gens, il y avait Gorgias, il y avait Caliclès, sont des personnages qui ont dit que il y a une morale, il y avait des morales fortes que d'autres, il y avait des morales plus qui faisaient plus place à la vitalité. C'est des thèmes que Nietzsche a repris après. Par exemple, Caliclès dira que le juste et l'injuste, en fait, ce sont uniquement des valeurs qui sont des inventions des faibles. Il va même jusqu'à parler de morale d'esclave. Et Nietzsche, lui, en fait, il reprend la pensée des sophistes. Mais il dit que les sophistes ont été calomniés par Platon et Socrate. C'est pour ça qu'il y a cette référence-là. Mais pourquoi employer toujours ces mots auxquels, depuis longtemps, s'attache un sens calomnieux ? Il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Pour lui, la violence de la nature, c'est pas quelque chose qu'il faut ou cacher ou critiquer ou tenter d'expliquer. La violence de la nature, elle est inhérente à sa source, c'est-à-dire la volonté de puissance, qui est le réel. Le réel, c'est cette énergie qui va produire toutes les formes. Et par conséquent, encore une fois, il ne s'agit pas de s'apitoyer, il s'agit de constater que la nature, elle est cruelle par essence. Il y a d'autres textes, alors pas dans celui-là, où Nietzsche revient sur l'explication biblique de la cruauté de la nature. Et il dit dans la Bible, on nous dit que au départ, la nature, dans le jardin d'Éden, elle était toute paix, toute harmonie. Et ensuite, par rapport à la faute, le péché originel, la nature est devenue l'épine et le chardon. Vous connaissez la terre, elle est devenue hostile, quoi. Alors évidemment, pour Nietzsche, il fait une critique de cette conception des choses, parce que lui, c'est au départ que la nature est épine et chardon, parce que la nature, elle est mue par cette énergie qu'il appelle volonté de puissance, que, encore une fois, que Schopenhauer appelait le vouloir vivre, et que Spinoza appelait le conatus, c'est-à-dire cette énergie qui pousse tous les éléments de la nature à vouloir se répandre, se développer, en luttant contre les autres. En fait, la nature, c'est un champ de force. Voilà. Et pour lui, le roman biblique va essayer de culpabiliser l'homme, le rendre responsable de la cruauté native de la nature. Mais pour lui, c'est le suprême, pour Nietzsche, hein, c'est le suprême subterfuge, en fait, hein, du ressentiment. Parce que la nature, elle est désir, et donc elle est violente par nature. Il n'y a pas une faute originelle, il n'y a pas eu un péché, il rejette, hein, tout ça. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais on est, voilà. Moi, plus je lis ces textes, plus je m'aperçois à quel point ils ont été influencés par, encore une fois, par le darwinisme, hein, par cette idée d'une nature qui est une lutte de tous contre tous. Alors, qui veut intervenir ? Oui, le monsieur.
Je trouve qu'il y a une vision élitiste.
Oui.
Parce que ce qui m'interroge, c'est quand même le rapport à l'art. Est-ce que c'est possible d'ouvrir cela à tout le monde ?
Autrement dit, est-ce que tout le monde peut accéder à ce que lui appelle la dimension esthétique de l'existence ? Ou bien est-ce que c'est réservé à ce qu'on appelait, vous savez, le petit nombre d'élus, quoi, the happy few, comme on disait. Je dois vous dire que Nietzsche est hyper élitiste. Tout à fait raison.
Il est hyper
élitiste. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas en mesure. D'ailleurs, pour lui, d'ailleurs, le peuple allemand, il est complètement hors jeu. Il a des pages sur les Allemands, sur le dont il est issu, sont d'une extrême cruauté et d'une extrême férocité. Pour lui, les Allemands sont bêtes. Il écrit, hein, c'est un peuple guerrier qui n'a pas dépassé le stade le plus basique de l'existence. Et ça va tellement loin chez lui que Nietzsche décidera de ne plus habiter. À l'époque, il était en Saxe. Hein. Il veut quitter. Il ne veut plus avoir affaire. Ça, c'est après sa rupture avec Wagner. Hein. Il dit, pour moi, il n'y a qu'un seul pays où je peux aller. Un pays qui a porté la dimension esthétique de l'existence au plus haut, c'est le pays des opéras, c'est le pays du bel canto, c'est l'Italie. Et il a passé pratiquement le reste de sa vie en Italie.
et en particulier à Milan. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à Milan, il y a un endroit qui s'appelle la Scala. Donc voilà, oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un élitisme, c'est vrai. Oui.
Il y a quelque chose qui me paraît en opposition à propos de la volonté de puissance. Et vous dites à un moment donné que la volonté de puissance ne s'inscrit dans aucune finalité. Or, dans la notion de volonté, il y a une finalité, il y a une notion de finalité. Et cette opposition, j'ai du mal à la comprendre.
Ah, ça c'est une bonne question. Moi, j'aime pas du tout cette traduction, mais c'est celle qui vient de donner la volonté, parce que c'est vrai, moi si je dis, moi j'ai la volonté, je sais pas, d'arrêter de fumer, par exemple, il y a une finalité. Chez Nietzsche, cette expression, la traduction qu'on donne, hein, en fait, c'est pas une conscience, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de finalité. Nietzsche compare le réel, ce qu'il appelle le réel, à une mer de force en tempête, et il dit que les espèces, c'est lui qui dit ça, hein, sont comme des vagues qui se forment sous l'effet de la tempête et qui s'écrasent les unes contre les autres. Et il dit, les vagues, c'est comme une espèce qui apparaît, une espèce animale, et ensuite qui disparaît. Vous savez, comme les vagues, une fois qu'elles s'entrechoquent, elles apparaissent et disparaissent. Et ce mouvement, il n'a pas de fin, il n'a pas de sens. Il n'y a pas, alors je vais rentrer dans le vocabulaire philosophique, hein, il n'y a pas de téléologie chez Nietzsche, c'est-à-dire, il n'y a pas une fin d'histoire. Il n'y a pas un but. Dans le christianisme, il y a une théologie. Le jugement dernier. C'est-à-dire, il y a une fin, quoi. Il y a des philosophes qui vous disent, voilà, le but de l'existence, c'est d'arriver à ça ou ça. Chez Kant, c'est la paix perpétuelle, le jour où il y a un état mondial. Chez Nietzsche, non. C'est un jeu de force, mais qui est à lui-même sa propre fin. Et c'est pour ça que le mot volonté, il prête vraiment à confusion ici. Hein. En fait, cette volonté, c'est une pulsion. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que cette pulsion. Nietzsche dit que cette pulsion, cette énergie, on la ressent en nous. À travers la violence de certaines de nos pulsions, justement. On a tous une vie pulsionnelle. Et dans la colère, dans le désir, dans cette pulsion, on la ressent. Et on est tous des moments de cette vie-là. C'est fou parce que ça a inspiré beaucoup d'autres philosophes après. Je pense à un monsieur qui s'appelait Bergson, un philosophe français qui a écrit l'énergie spirituelle. Et lui, en fait, l'énergie spirituelle, il reprend au deuxième lycéen cette mer de force en tempête. Et pour lui, cette mer, elle arrive jusqu'à dépasser le corps pour aller vers l'esprit. Il n'y a pas ça chez Nietzsche. Hein. On reste au niveau de la matière. Nietzsche était un philosophe de la matière. Et la volonté de puissance, elle n'a pas d'autre but qu'elle-même. C'est pour ça que c'est une forme de métaphysique, hein, mais une métaphysique de la matière. Il n'y a pas de dimension spirituelle.
Donc la volonté de puissance s'autodétruit.
Ah oui, oui. D'ailleurs, il le dit. Destruction.
L'image des vagues qui ont beaucoup de violence, qui se heurtent et ensuite on passe à autre chose.
Oui, c'est ça. Et chaque vague, c'est comme ça peut être un individu, ça peut être une espèce. Oui, c'est ça. Et il écrit, hein. Création, destruction. Alors, ça évoque Freud, hein, Eros et Thanatos aussi. Chez Freud, il y a ça. Hein. Il y a création, destruction. Nietzsche a écrit beaucoup de thèmes que Freud va retrouver sans avoir lu Nietzsche. D'ailleurs, les amis avaient conseillé, après on l'a su, hein, à Freud de lire Nietzsche. Et Freud n'a jamais voulu lire Nietzsche. Parce qu'il avait peur de trouver des thèmes qu'il était en train de comprendre. Il n'a jamais voulu, mais en fait, l'inconscient, on l'a déjà chez Nietzsche, le thème de l'inconscient, donc la sublimation, le fait que la raison, en fait, c'est un effet de la vie pulsionnelle, hein, il y a beaucoup de thèmes qui sont déjà chez Nietzsche, et qu'on retrouvera après dans la psychanalyse. Hein. Nietzsche appelle l'inconscient le soi, avec un S majuscule. Il dit derrière le moi, le petit moi, il y a le soi qui est caché. Le soi, c'est l'inconscient. Et c'est très net, hein. Nietzsche a compris que ce qu'on refoule peut revenir sous une forme pathologique. C'est pour ça qu'il fait la louange des Dionysies, comme un moyen d'évacuer une société qui est trop puritaine, qui est trop dans le refoulement, elle produit des névrosés en série. Ben ça, c'est chez Nietzsche. Alors que la psychanalyse n'existe même pas encore à l'époque. Mais bon, il faudrait juste que je rajoute quelque chose aussi. Nietzsche s'est permis de dire de Socrate que c'était un plébéien inculte. Pas sympa, quoi. Donc Nietzsche l'a traité, et il a traité Kant d'idiot. Mais pourquoi est-ce qu'il a traité Kant d'idiot? Parce que chez Kant, Kant nous dit nous ne connaissons que des phénomènes. C'est-à-dire que des apparences. Ce qu'on voit, c'est des apparences. Et Kant dit la chose en soi, ce qu'il y a derrière les apparences. La chose en soi, chez Kant, on ne peut pas la connaître. Elle est inconnaissable. Vous savez ce que dit Nietzsche? Dis-moi la chose en soi, je vais trouver. Ça s'appelle la volonté de puissance. Donc il dit la chose en soi de Kant, c'est la volonté de puissance. C'est la seule chose qui est réelle, c'est-à-dire ce désir. Il faut être bon, enfin non, il faut être assez culotté quand même. Alors oui.
Je suis un peu surpris quand même parce que ce sont des philosophes masculins. Est-ce que dans leur volonté de puissance, ils incorporent également le côté féminin? Est-ce qu'il en est différemment pour la femme?
C'est-à-dire le fait que la femme soit elle-même soumise à la volonté de puissance? Ah oui, à partir du moment où c'est un être vivant et qu'elle cherche elle-même à persévérer dans l'être, qu'elle est elle-même soumise à l'instinct de conservation et à la volonté de porter la vie. Il n'y a pas de distinction. La volonté de puissance, c'est ce qui nous ancre dans l'existence. C'est ce qui nous fait vouloir accepter la vie. Dans toutes ses dimensions d'ailleurs. Et un peuple qui a une volonté de puissance faible, c'est un peuple qui rejette le corps. Bon, moi j'ai un peu atténué le propos, mais il y a des pages contre le christianisme qui sont proches de l'injure. Le dernier texte écrit par Nietzsche, c'est pratiquement une suite d'injures contre ce qu'il appelle l'ascétisme chrétien. Ce texte s'appelle l'Antéchrist. Ah, c'est d'une violence. Alors il critique tout, hein. Pour lui, tout est suspect dans le christianisme. Par exemple, le célibat des prêtres. C'est suspect. Pourquoi? Et dans les évangiles, on ne dit pas qu'il faut que les prêtres soient célibataires. Toutes les figures. Alors pour lui, toutes les figures chrétiennes, c'est ce qu'il appelle des arrière-mondes. Il dit que c'est peuplé d'êtres imaginaires. La Vierge, les anges. Pour lui, on est là face à des personnes qui sont tellement incapables d'accepter la vie dans ce qu'elle a de plus corporel, qu'ils vont inventer un monde imaginaire, que lui appelle arrière-monde, le paradis, l'enfer, le purgatoire. C'est d'une violence. Et on a dit que Nietzsche a participé, avec d'autres, à l'instauration ou au développement de la pensée laïque en France, à la pensée de la laïcité. En tout cas, il fait partie de ceux qui ont été les plus durs envers le fait religieux, ça c'est clair. Et voilà, Dieu est mort, absolument. Alors pourquoi est-ce qu'il dit Dieu est mort et non, c'est dans Zarathustra, hein, et non pas Dieu n'existe pas? Parce qu'il dit le christianisme a fait naître Dieu en Jésus-Christ. Puisque le christianisme a fait naître, il faut en annoncer le décès. Dieu est mort. C'est ce que Zarathustra vient annoncer aux hommes. Et on a dit que Nietzsche avait annoncé aussi le déclin du christianisme en Occident. Il a annoncé, il en est promoteur aussi, enfin un des promoteurs.
Justement, si Nietzsche est athée, où se situe la vie spirituelle? Pour lui, il n'y en a pas. Christianisme à part.
Chez lui, la vie spirituelle est, encore une fois, enfin, moi, de ce que je me rappelle de ce qu'il a écrit, c'est vraiment dans la. Chez lui, la vie spirituelle, elle n'est pas. Elle est toujours liée au rapport à son propre corps, au rapport à la matière. Et c'est pour ça que. Tout à l'heure, j'ai parlé des sources de la pensée nietzschéenne en me référant à Schopenhauer. Nietzsche avait complètement acquiescé à cette idée qu'on trouve déjà chez Schopenhauer par rapport à l'hindouisme. Il dit chez les hindous, il n'y a pas ce rejet de la matière qu'on a dans la pensée chrétienne ou judéo-chrétienne. Ce que Nietzsche n'aime pas, c'est que dans la pensée judéo-chrétienne, Dieu est invisible. L'esprit est invisible. Ce qu'il aime dans la mythologie grecque, mais aussi dans l'hindouisme, c'est que les dieux, qui sont pour lui des fictions, donc, hein, ils sont incarnés. Par exemple, pour Nietzsche, le fait que les dieux grecs aient tous les défauts des hommes, ça lui plaît. Vous savez pourquoi? Par exemple, Zeus, il a plein de défauts. Il a des passions humaines, hein, c'est un coquin, c'est un dieu cavaleur, Zeus. Hein. Quand il y a des guerres, vous avez des dieux qui prennent parti, par exemple, rappelez-vous... L'Iliade, la guerre de Troie, vous avez des dieux qui sont pour les Troyens, d'autres qui sont pour les Achéens. C'est
sympa. Les dieux sont incarnés, ils sont jaloux, ils sont, ils ont des défauts, ils boivent. C'est des dieux alcoolos, alcooliques. Et puis alors, Nietzsche se souvient de cette phrase qu'on trouve dans l'Iliade aussi. Que font les dieux sur l'Olympe? Ils passent leur temps à rire. Ils rient d'un rire inextinguible. Les dieux qui se marrent. Bah, ça lui plaît. Pourquoi ça plaît à Nietzsche? Parce qu'il dit voilà, en fait, les dieux grecs, c'est vraiment la projection des passions humaines des Grecs. Ce sont des dieux avec des passions. Autrement dit, même dans la mythologie, pour Nietzsche, les Grecs n'ont pas nié leurs passions. C'est-à-dire, ils ont vraiment habité leurs passions, parce qu'ils savaient que le sel de l'existence, l'essence même du réel, c'est la passion. C'est la passion. Et ce qui l'horripie, c'est toutes les traditions spirituelles qui glorifient l'invisible, l'esprit, ce qui n'a pas de corps, quoi. Et il dit, regardez, les hindous aussi, hein, leurs dieux, il y a des avatars, Ganesh, un dieu éléphant, vous vous rendez compte, il y a des dieux, enfin, les vaches sacrées, tout ça. Ça lui plaît. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est le dieu de l'incarnation, c'est le philosophe de l'incarnation. Hein.
Alors là, du coup, j'avais deux questions. Alors, la première, c'était que c'était une vision extrêmement pessimiste de l'humanité et que de ce fait, nous allons nécessairement à notre perte. Et je crois qu'en ce moment, on est un petit peu dans cette logique. Bon, alors l'autre, parce que comme vous avez parlé des dieux, etc., je me demandais, est-ce que la création des dieux de tout temps, hein, toute leur histoire, ça n'est pas une manière de sortir de cette condition, de l'homme, par l'art?
Alors, donc, vous voulez dire, est-ce que l'art, finalement, n'est pas ce qui va sauver l'homme, c'est ça?
Non. Est-ce que c'est pas l'homme qui, inconsciemment, du fait de sa condition, ne crée pas tous ces dieux et toutes ces légendes pour inconsciemment se sortir de sa condition?
Oui, vous voulez dire cette condition de d'être le produit de la volonté de puissance, c'est ça?
Oui.
Oui, ce qui est sûr, c'est que chez Nietzsche, en dehors de l'art, il y a point de salut. Il y a chez lui une sacralisation de l'art. Comme jamais, moi j'en ai lu. L'art, pour lui, c'est vraiment l'activité salvatrice. Le salut, c'est l'art. Mais en même temps, moi je suis d'accord avec vous, comme il n'y a pas de téléologie chez lui, il n'y a pas de destinée de l'âme après la mort. Hein. Pour Nietzsche, il n'y a pas, par exemple, une vie après la mort. Il ne parle pas de ça. Pour lui, il n'y a qu'une vie, c'est la vie terrestre. Hein. Tout ce que l'homme a créé comme arrière-monde, comme il dit, c'est là pour faire taire les angoisses. Et de ce point de vue, là, il est proche de Marx. Vous savez, Marx a dit que la religion était l'opium du peuple, consolatrice, et en même temps, elle fait espérer une vie après la mort. Là, Nietzsche est d'accord avec Marx. Il n'y a que la vie terrestre. Il ne conçoit pas le réel en dehors de cette union entre ce qu'on peut appeler la conscience plus que l'âme, et la matière. Il n'y a pas d'arrière-monde. Sinon, en fait, le salut, c'est dans l'art, c'est dans la jouissance esthétique du monde. Voilà. Et dans ce qu'il appelle la création, c'est-à-dire cette capacité à sublimer les pulsions agressives, les pulsions qui me poussent à vouloir détruire le prochain, dans l'œuvre.
Est-ce que les religions, ce n'est pas de l'art? Pour dire les choses autrement.
Pour lui, les religions sont l'œuvre de la volonté de puissance, mais comme tout est l'œuvre de la volonté de puissance. Et il dit que certaines religions sont plus destructrices que d'autres. Pour lui, la religion la plus destructrice, c'est le christianisme, parce qu'elle détruit. Elle détruit le monde, en fait, hein, puisqu'elle nous dit le. Il faut que je vous donne un exemple précis. Hein. Par exemple, Nietzsche critique cette phrase qu'on trouve là dans les évangiles. Et qui est reprise par les prêtres et qui est critiquée par Marx déjà. Souffrez, acceptez les souffrances terrestres, puisque dans l'autre monde, les derniers seront les premiers. Voilà. Pour Nietzsche, ça, la religion, en tout cas à travers des phrases comme ça, elle est criminelle, parce qu'elle va contre la vie. Elle nous dit, préférer l'après-vie. Mais pour lui, il n'y a pas d'après-vie, il n'y a que cette vie-là. Donc pour Nietzsche, il y a des religions qui ne sont pas respectueuses, en fait, de la volonté de puissance, et il y en a d'autres qui le sont. La religion grecque, elle est respectueuse de la volonté de puissance, puisque elle n'est pas de coupure entre l'homme et les dieux. Il y a des textes magnifiques là-dessus. Par exemple, il y a un texte de Nietzsche dans Le Gai Savoir où il dit que, à l'époque des Grecs, tout dans la nature pouvait cacher un dieu. Ah, il parle de l'animisme grec, là. Il dit derrière un arbre, il pouvait y avoir une nymphe. Il pouvait y avoir des dieux partout. Les hommes n'étaient pas coupés de leurs dieux. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas coupés de ce jeu de miroir, en fait, hein, avec eux-mêmes. Alors que les religions qui font de Dieu l'invisible, il reprend le thème, alors là c'est un thème hegelien, de l'homme coupé, en fait coupé de lui-même à travers le fait que l'homme est coupé de ses dieux. Quoi. Ça devient le Dieu invisible, le Dieu caché, le Dieu qu'on ne voit pas. Et pour lui, en fait, c'est l'homme qui se coupe de lui-même, pour Nietzsche, hein, parce qu'il se coupe de ce jeu de miroir, en fait, avec des images de lui-même. Là aussi, il faut savoir que la pensée de Nietzsche a été influencée par quelqu'un comme, alors, qui s'appelle Ludwig Feuerbach. Feuerbach, c'est un philosophe allemand qui a écrit que le Dieu chrétien, c'est une projection de l'homme. Et voilà, quand je vous dis, pour Nietzsche, les dieux que les hommes s'inventent, ce sont des projections d'eux-mêmes, c'est parce que Nietzsche avait lu Feuerbach, il a aussi été influencé. Il y a plein d'influences chez Nietzsche. Et c'est vrai que si on ne connaît pas ces influences, il y a plein de passages qu'on ne peut pas comprendre, ou on ne peut pas comprendre la portée. C'est pour ça que c'est un auteur difficile aussi. Hein. Ce qui suppose une connaissance certaine de l'histoire de la philosophie.
Les dieux grecs,
c'est la projection
de l'homme ordinaire, banal,
les
dieux grecs.
Oui, avec leur passion.
Que Nietzsche ne l'a pas réalisé. Puis on pourrait lui répondre que le Christ, s'il est tenté qu'il puisse admettre la vérité historique du Christ, est venu justement, c'est bien ce que l'on essaie de croire, pour rendre visible la relation entre Dieu et l'homme. Voilà, je trouve. Il y a des moments où il nous paraît enfantin à ce niveau-là. Il est vrai qu'à son époque, l'évolution n'était pas admise par l'Église, bien au contraire. Il est vrai qu'ils sont nés dans un 19e siècle où justement la morale, il a raison, la morale était complètement insupportable.
Étouffante.
Pardon ?
Étouffante aussi, peut-être.
Pardon, excusez-moi.
Étouffante.
Mais étouffante, bien sûr. Bon, alors, l'Église a bien évolué depuis ce temps. Mais peut-être qu'elle pourrait le faire entendre un peu plus, quand même. Un peu plus. Parce que je suis sûre qu'encore beaucoup de personnes pourraient s'exprimer comme peut-être qu'elles ne le font pas ici, comme Nietzsche le fait dans ses écrits. Voilà. Bon, il y a. Enfin,
oui, non, mais ça t'aide.
Je ne vais pas me faire. Je n'en suis pas capable. Et je trouve qu'il y a une espèce d'enfantillage. Je ne sais pas comment vous expliquer.
Dans la pensée de Nietzsche.
Ah oui. Parce que là, écoutez, quand il dit, agis toujours de telle sorte que tu acceptes le retour éternel des actes que tu as joués, etc. Bon, moi, ça ne me plairait pas de revoir, même s'ils sont extraordinaires, des actes qui auraient une espèce de monotonie un peu saoulante. Hein. Bon, voilà. Mais quand il parle comme ça, il exprime quelque chose qui sort de la simple réalité matérielle. Il y a une expression pleine de spiritualité là-dedans. Alors, comment se fait-il qu'il n'arrive pas à reconnaître dans l'homme cette capacité à sublimer, comme vous l'avez dit, à se dépasser, à aimer sans anéantir. Enfin, écoutez, est-ce que vous pourriez vous expliquer ça? Comment se fait-il que cet homme si intelligent?
Oui.
Non, mais je parle de Nietzsche.
Bah oui, j'avais compris.
Je dis pas, mais comment Nietzsche? Est-ce que vous trouvez qu'il y a de l'incohérence un peu dans son texte?
Ben, on lui a reproché de. Attention, Nietzsche a fait l'objet de vives critiques. Hein. Par exemple, lorsqu'il dit que la morale chrétienne c'est une morale d'esclave, moi je trouve ça scandaleux.
Alors que justement, on est venu pour libérer l'esclave. On ne connaît pas ce texte.
Il y a des textes de Nietzsche que beaucoup de philosophes ont jugé très sévèrement après. Hein. Il y a des, parce que bon, vous avez vu que j'ai fait un rapide. Il y a des textes où il écrit que le christianisme a mis trop l'accent sur les gens qui ont des handicaps physiques, les faibles, au lieu de glorifier ceux qui ont un corps bien solide. Là, pour moi, c'est aussi pas comprendre le message chrétien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment on est dans une philosophie qui essaie d'articuler une nouvelle approche de la vie, c'est le darwinisme. Il ne faut pas oublier ça. Avec, parce que à l'époque où Nietzsche écrit, il n'y a aucun philosophe qui a intégré le darwinisme. Il y en a qui continuent encore à parler des espèces fixistes, création de Dieu. Là, on est dans une philosophie qui essaie de penser la temporalité aussi, l'évolution des espèces. Pour moi, ce qui est intéressant, moi ce qui m'intéresse dans la philosophie de Nietzsche, c'est la clé de lecture qu'il me donne de l'histoire humaine avec un H. Cette idée que l'histoire est un théâtre de lutte sans fin, qui a... Bon, je vais vous dire, c'est avec Nietzsche que j'ai cessé de me dire, un jour, l'histoire nous amènera vers sa fin de l'histoire, c'est le grand thème de l'époque, hein, c'est-à-dire la paix perpétuelle. Moi ça, j'y crois plus. Parce que tant qu'il y aura de l'histoire et tant qu'il y aura des hommes, il y aura des guerres. C'est-à-dire que là, il y a un pessimisme de Nietzsche que je trouve pertinent. Maintenant, après, il y a une espèce de surdimension qui est donnée à l'expérience esthétique, qui est quand même assez. C'est vrai qu'il donne à l'art un rôle que je trouve exorbitant.
Quand il dit. La morale chrétienne est une morale d'esclave. Est-ce qu'il parle de la morale des origines du christianisme ou de la morale catholique?
Non, il parle en fait de tout ce qui a été créé autour.
C'est exactement ça que j'entends. Il parle de ce qui a été créé autour.
Ah oui.
D'accord.
C'est-à-dire en fait une morale qui va privilégier, qui va refuser la dimension désirante, quoi, qui va. Vous savez, c'est Tartuffe caché ce sein qu'on saurait voir. C'est-à-dire qu'il est une morale hypocrite pour lui. Hein. Mais les termes, ils sont très durs, quoi. Et il en a après les prêtres, il en a après l'Église, il en a après le clergé, il en a. Il y a deux passages où il dit que Jésus, en fait, c'est un brave type, quoi. Et il y a un passage qui a été très remarqué parce qu'il est discuté, où il loue le courage des juifs, dont il dit que malgré toutes les persécutions auxquelles ils ont été soumis dans l'histoire, ils ont un vouloir vivre tellement fort qu'ils ont résisté. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas du tout l'antisémite, quoi. C'est deux passages qui méritent d'être signalés, mais il a été tellement récupéré par des courants divers, quoi. Hein, qu'on a fait dire à Nietzsche tout et son contraire. Vous vous rendez compte que, encore une fois, Mussolini, le surhomme, c'est moi, quoi. Et alors que c'est pas ça du tout, le surhomme. Hein. C'est, en fait, chez Nietzsche, le surhomme, c'est celui qui a la capacité d'avoir la naïveté de l'enfant, écrit Nietzsche. Il écrit ça dans Ainsi parlait Zarathoustra. L'enfant qui est capable de faire de la vie aussi un jeu. D'avoir un rapport ludique aux choses. Il y a de très beaux passages. Hein. Il y a des passages sur le jeu GEU, hein, la danse, l'art. Et c'est pas du tout. Le surhomme, c'est encore une fois, c'est pas du tout l'arien qui veut dominer le monde. Quoi. Alors, y a-t-il encore? Oui.
Parce que vous dites qu'en fait, vous trouvez qu'il donne un petit peu trop d'importance à l'art. Mais en fait, l'art, dans son propos, me semble venir comme un contrepoids justement à l'énergie négative qui peut surgir. Oui. Quoi. C'est oui. Recentrer cette énergie qui est peut-être un peu trop énorme. Il a recentré sur quelque chose de créatif, d'artistique.
C'est... Oui, oui. Voilà, un contrepoint et une traduction.
Je ne pense pas que ça soit trop...
Que ça soit opposé.
Non, je trouve pas qu'il insiste trop, comme vous dites, sur l'art. En fait, c'est dévier la puissance qui peut, à force être destructrice, la dévier pour en faire quelque chose de... de positif qui,
oui,
qui accompagne la vie, qui accompagne la vie et qui la rende agréable. Parce que le but, c'est quoi?
Bah oui, 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 c'est ça, oui, c'est ça, absolument.
Et d'en profiter, quoi, d'être ludique, faut que la vie elle soit ludique, faut qu'elle soit légère, faut qu'on rit comme
ça. Oui, c'est ça, et le thème du rire est très important, je pense. Ouais. Oui, c'est ça, ludique, légère, par opposition à l'esprit de gravité, ce qu'il appelle l'esprit de pesanteur. Alors, oui.
Mais alors, on peut dire de l'art dans le christianisme, sans rire pour autant.
Oui. Alors, ça, c'est une question qui est intéressante. Moi, je... oui. Ça me fait penser à cette célèbre citation de Marcel Proust, vous savez, là, écrivain français, l'auteur de La Recherche du Temps Perdu, qui avait écrit au début du siècle dernier, les plus beaux musées sont à l'intérieur des églises. C'est Proust qui avait écrit ça. Et c'est vrai que chez Nietzsche, l'art, il n'est pas dans les musées chez Nietzsche. L'art, il est partout. Il est dans la rue. Il est dans la rue. Puisque lui, il étend considérablement la notion d'art à la vision, enfin, une vision esthétique de l'existence. Alors, je vous ai parlé de la musique tout à l'heure. Il y a chez Nietzsche aussi une véritable fascination pour les poètes, en particulier pour des poètes comme Hölderlin. Enfin, c'est vraiment. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a un élitisme chez Nietzsche, c'est évident. Parce que tout le monde n'a pas accès chez lui à certaines dimensions de l'existence. Et il pense même que certaines cultures, par essence, hein, empêchent d'accéder. Encore une fois, il fait des Italiens, des gens presque fantasmés, quoi. Enfin, il y a un fantasme de l'esthète chez lui. Alors j'ai oublié de vous dire, mais je suis quand même de vous dire, que la santé de Nietzsche va beaucoup se dégrader, et qu'un jour, alors qu'il est dans un village... italien, puisqu'après il vit en Italie, un village qui s'appelle Sils Maria. Ben, il va y avoir un événement assez tragique. Est-ce que vous connaissez ça?
Non.
Il y a un homme qui est en train de maltraiter un cheval. Et Nietzsche va, à cette occasion, va avoir une espèce de crise de folie. Enfin, en tout cas, suite à cette scène-là, il va sombrer dans une paralysie au niveau du langage qui va le mettre dans un état d'hébétude, c'est-à-dire qu'il va plus pouvoir parler. C'est comme s'il était devenu un légume, en fait, hein. Et on pense que c'est lié à sa syphilis. Et pendant 5 ans, entre 1895 et 1900, il va être chez sa sœur et chez sa mère, quand on dit qu'elle est très possessive, sans bouger, sans parler. Et il y a une célèbre photo où on le voit avec sa moustache, complètement hagard, les yeux écarquillés. Et lui, qui est un des plus grands penseurs, en tout cas, du 19e siècle, pendant 5 ans, il ne va plus ni parler, ni penser. Et il meurt en 1900, après 5 ans, complètement hagard. Et c'est une fin quand même très tragique, hein, pour quelqu'un qui a célébré le corps, la vie. Et donc, Nietzsche est mort, voilà, comme ça. Et beaucoup ont dit que c'était une des fins les plus tragiques qu'on a connues dans l'histoire des philosophes. Voilà, je tenais à vous le dire. C'était pas pour plomber l'ambiance, hein. Mais il fallait quand même.
L'art chrétien, est-ce que c'est pas avant tout un art de la souffrance?
Ah ben, il critique le dolorisme chrétien, hein, ouais. Ce qu'il appelle le dolorisme chrétien.
Ouais. Avant tout, ouais. L'enfer, la crucifixion, le chemin de croix, enfin, je veux dire, on retrouve à l'envi ces thèmes déclinés dans des tas de...
déclinés dans plein de...
Ah oui,
ah, oui. Ah, oui. Complètement. De la souffrance et de la souffrance du corps.
Et à travers l'art, justement.
Et à travers l'art, oui, c'est de ça dont je parle.
C'est des sujets très tragiques, la plupart du temps.
La plupart du temps, oui.
À la fin de ces derniers textes, Nietzsche signe ses textes par Dionysos ou le crucifié. On s'est demandé pourquoi il signait ça. Parce que Dionysos, dans son esprit, c'est l'opposé du Christ. Et il signe Dionysos ou, et pas et, mais ou le crucifié. Alors il y a plein d'interprétations, hein. Mais on va. Comment ? Mais oui. La pensée du Christ l'accède aussi, hein. Alors il y en a qui ont dit c'est par rapport à son père. Mais père pasteur protestant. Mais l'œuvre de Nietzsche, on ne peut pas la lire sans ce rapport qu'il a au Christ, aux évangiles. et à travers même sa violence aussi. Hein.
Mais de là le danger de l'interprétation des textes quand elle pense justement avec le nazisme, là, parce que c'est tellement complexe. Donc on peut utiliser les livres.
Ah oui, mais ça c'est un philosophe qui s'y prête avec. Vous savez, les aphorismes, c'est comme des, c'est comme de la poésie, hein. On peut interpréter certains aphorismes de plein de manières différentes. Mais il a annoncé plein de choses. Hein. Il a annoncé le déclin du christianisme en Occident, ça c'est indéniable. Il a annoncé la prédominance de la science matérialiste. Il a une conception de la science qui est très contemporaine. Alors, je ne peux pas développer là tous ces thèmes, mais on a vu que c'était un auteur très prophétique. Et, oui, et ça c'est vrai. Hein, parce qu'il a, il a vu plein de choses qui se sont révélées justes. Et donc c'est bon, c'est une pensée complexe. Moi je vous ai donné comme ça quelques thèmes, hein, mais je vous invite à lire du Nietzsche, quoi. Et si possible, vous commencez par le premier, c'est plus facile. Hein. Naissance de la tragédie. Voilà, je, on va terminer là peut-être. Parce que là je vois que
oui.
C'est assez bon. Et sauf si vous avez d'autres questions, hein. Sinon j'aurai le plaisir de vous retrouver. Donc
juste. Non,
mais oui.
On parlait des Dionysies,
oui.
Des Bacchanales. Il y a un rapport avec le carnaval au Moyen-Âge, pas le carnaval contraint qu'on connaît actuellement, encadré, ainsi de suite. Alors, où il y avait quand même une certaine liberté, absolument. Enfin, transcendance des...
Oui, c'est vrai, c'est un bon... Alors, je ne suis pas historien, mais je crois que j'avais lu quelque chose là-dessus. Il disait qu'au Moyen-Âge, on reprenait un peu ces traditions.
Oui.
Est-ce qu'elles étaient dans le même esprit? Parce que chez les Grecs, les Dionysies, on disait que les relations d'autorité étaient subverties aussi. Les esclaves étaient plus esclaves. Ils participaient aussi. Hein.
C'était exactement ça au Moyen-Âge également.
C'était ça aussi.
Ah oui, oui, oui.
Il y avait une inversion.
Il y avait une...
Alors moi, je tenais à vous souhaiter de bonnes fêtes, puisque...